bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour, soyez les bienvenus, c'est la bande originale avec Leïla Kadouroudali, Jérémy Crêteville, Daniel Morin,
ouais,
Albert
Bonjour.
Tout à l'heure Tanguy Passuro, et nos invités sont Olivia Cotte et Pascal Arbillon. On n'en a eu que deux. Bonjour, ouais. Soyez les bienvenus.
En vous remerciant.
On n'en a eu que deux, parce qu'on aurait pu aussi inviter Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Jeanne Rosa, je ne connaissais pas et que j'ai découvert, pardon, s'il fallait que je la connaisse avant, mais j'ai, voilà.
Nicole Garcia.
Carmen Maura, Marie-Christine Barrault, puis chez les garçons, et il y a Noémie Merlan aussi, qui est formidable, chez les garçons, Vincent De Dienne pour sa première fois au cinéma, Pascal De Molon et Gustave Carven, toute cette joyeuse bande fait partie du casting de La Fête des Mères qui sort dans deux jours, mercredi prochain, ce 23 mai. Bonjour Pascal Arbillou.
Bonjour.
Bonjour Olivia Cotte.
Bonjour.
Alors vous, c'est une première.
Hein, tout donc, à fait. Voilà, j'ai pas eu le câlin qu'a eu Pascal Arbillou.
Tout ça. Non, alors, vous, on fait des bisous pendant l'émission pour que ça se fasse bien.
Ah, super.
Voilà, le câlin qu'on a fait avec Pascal, c'est « Ouais, t'es revenu !» C'est gentil, parce qu'on a toujours peur que les invités ne reviennent pas vu ce qui se passe dans l'émission. Ça porte bien son titre, parce que La Fête des Mères, on entend aussi bien, évidemment, cette fête populaire. Tout le monde croit que c'est Pétain qui a instauré cette fête des mères.
Ouais,
et justement, Olivia Cotte, enfin votre personnage, rétablit la vérité dans le film. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes prof, en fait.
Oui, prof de sociologie.
Ah oui. Oui, oui. Vous n'êtes pas Pétain.
Non, je ne sais pas. A priori, non. Peut-être, hein. Peut-être,
et donc, tout part, vos explications partent d'une toile qui est exposée, enfin déjà, le film démarre au musée d'Orsay, et dans ce musée, il y a une toile.
Oui, de Whistler, qui est la représentation de la mère.
De sa maman.
De sa maman, qui a posé pendant des heures pour elle par abnégation. Et donc, ça, après, c'est devenu un symbole de la maternité, du don de soi. Et c'est devenu vraiment le symbole de la maternité chez les Américains. C'est considéré comme leur Mona Lisa. Et après, on quitte ce tableau et on arrive sur
l'histoire. Et d'ailleurs, ils nous en veulent un peu d'avoir le tableau.
Ils nous en veulent. Enfin, ils nous en veulent. Ils sanglotent. Peut-être qu'il y a, c'est pas des sanglots belliqueux, mais en tout cas, ils sont très tristes.
Bah oui,
c'est
Trump va arranger tout ça. Trump, il va la rapatrier.
Peut-être.
Je sais pas ce que c'est qu'un tableau, il veut quoi.
Mais il s'en fout. C'est parce que c'est que la politique internationale.
Ça serait sur Instagram encore. Sur Instagram, il dit, je veux récupérer le tweet, mais sinon. Et puis, il y a Anna Jarvis aussi.
Oui, Anna Jarvis. Donc, c'est une femme qui a, en effet, instauré, enfin, qui a voulu créer cette fête des mères, qui était la fête de la mère. Parce que sa maman, à elle, était infirmière pendant la guerre de sécession, et cette femme-là a essayé de soigner les soldats des deux camps. Donc en fait, c'était plus un symbole de paix. C'était la femme et celle qui porte la paix en elle et non la guerre. Bon. Et sa fille a voulu faire hommage à cette mère et donc à toutes les mères.
Et elle n'aurait jamais voulu, évidemment, que ça devienne la fête aussi mercantile, voilà, que ça représente des milliards de sans huile.
Ah oui, oui, je ne sais plus le chiffre exactement, mais c'est aux États-Unis, c'est dingue.
Ah oui,
des milliards et des milliards dépensés chaque année. Et donc elle s'est battue pour l'instaurer, elle s'est battue en effet pour l'abolir.
Et la prof que vous incarnez, elle aussi a des rapports à la maternité assez particuliers.
Quelque peu. Bah elle veut pas être mère, ça c'est sûr, mais parce que je pense qu'elle veut pas reproduire.
Bah ouais.
Voilà.
Quand en fait, on voit
elle
sa mère.
C'est ça. C'est, elle a une maman qui a voulu, qui a fait trois enfants, mais qui n'a pas du tout voulu s'en occuper. Enfin, qui s'est pas dit, je vais prendre le temps de m'en occuper.
Maman jouée par Marie-Christine Barrault.
Ouais, formidable. Un petit soleil.
Et puis il y a des sœurs dont vous, Pascal Arbillot, l'autre frangine étant Clotilde Courau.
Exactement.
C'est ça. D'ailleurs, Clotilde Courau et Noémie Merlan font partie des régulières, des comédiennes régulièrement utilisées
par Marie-Cassie
Mansion Char.
Qui est hyper fidèle, effectivement, dès qu'elle travaille avec quelqu'un.
En termes de comédienne. Alors vous, votre personnage, au sein de la maternité, vous êtes quoi, psychologue? Vous êtes
pédiatre.
Ouais,
je m'en souviens. Oui, c'est ça, je suis pédiatre.
Et d'ailleurs, il y a une très belle scène où on vous voit avec une mère qui est à bout,
ouais,
et qui sait plus comment faire, parce que je pense qu'elle a pas le temps ni de se reposer ni de penser à elle. Enfin, elle trouve
elle
que
même,
c'est une chance. Ouais. Ce que j'adore dans sa réplique, c'est quand elle se dit, mon mari, mais il est où? Mon mari, il a de la chance, il travaille.
Ah, enfin, oui,
il a une excuse pour pas être à la maison avec ses enfants.
Face à la guerre.
Non, reprenez-les.
Reprenez-les.
J'en veux plus de ses enfants. Ça, c'est très très.
Mais on rigole, mais c'est une scène très touchante.
Oui,
c'est vrai.
comédienne.
Qui...
Non, non, mais c'est vrai.
Très touchant.
Oui, voit pour, mais pour toi, c'est un documentaire, c'est ce que tu fais toujours avec tes enfants.
N'empêche que c'est très touchant pour les autres.
Comment parler de ce film, Pascal Arbillot? Parce qu'il y a quoi, une douzaine de portraits, je ne les ai pas comptés, mais enfin, ce sont des destins croisés autour de la maternité.
C'est ce qu'on appelle un vrai film choral, mais comme Shortcuts ou Love Actually. Moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est rare d'avoir autant. Autant d'acteurs réunis.
Autant de premiers rôles.
Autant de premiers rôles.
Chacune son intrigue et sa vision de la maternité.
Ouais.
C'est-à-dire, il y a le désir d'avoir des enfants et il y a aussi le rapport qu'on a avec sa mère.
C'est ça. Et qui on est quand on veut devenir mère éventuellement et que forcément on regarde dans le rétroviseur et on voit qui nous a élevé. Votre exemple à vous, cette brochette de sœurs, il est assez édifiant. Une mère, Marie-Christine Barrault, qui en plus est sur le déclin, hein, intellectuellement, psychologiquement, enfin, qui est en âge de...
Elle joue ça.
Oui, non, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, elle joue très bien ça. Je l'ai vu au Festival d'Avignon l'an passé où elle jouait une mère complètement exécrable et elle excelle là-dedans et elle est assez stupéfiante.
Elle adore le faire d'ailleurs.
Et là, elle le fait très bien.
Et elle lui dit, mais c'est génial, une méchante, une liberté.
C'est ça. Et elle est assez... elle fait
Alzheimer
du bien.
Les peuvent être très méchantes.
Ouais. Elle fait du bien à voir, parce que c'est aussi ça qui est intéressant dans ce film, c'est que j'ai l'impression qu'on règle aussi individuellement ses comptes avec notre propre mère. Et d'ailleurs,
Nicole... En tout cas, on se reconnaît forcément dans l'un des personnages ou dans une scène.
Et Nicole Garcia a raison. Oui. Son personnage dit à un moment, on est beaucoup plus dur avec les mères qu'avec les pères.
Ouais,
et c'est vrai que la mère... Je ne sais pas pourquoi elle cristallise tout d'un coup tout ce qu'on peut reprocher à quelqu'un dans l'éducation. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a pas assez regardé. Et en fait, je trouve qu'il est assez thérapeutique ce film parce qu'on se demande qui on est. Est-ce qu'on va devenir comme votre personnage, Olivia Cotte, c'est-à-dire à plus pouvoir voir une mère parce que c'est vrai, quand vous mettez en colère au
ne
restaurant.
Ne divulgage pas la scène
dans un restaurant. Non, mais sauf qu'il y a une scène dans un restaurant et tout d'un coup, vous êtes en train de juste expliquer, c'est pas parce que tu as donné naissance à un enfant que t'es supérieur aux autres femmes. Ça va. La maternité, c'est pas non plus vu comme l'épanouissement ultime de la femme. On peut s'épanouir sans être mère.
On va croire que tu parles de toi. Fais attention.
Moi, je milite pour ça. Ouais. Tu sais pourquoi? Mais pas individuellement, parce que je trouve qu'il y a une forme de telle obligation quand on te dit quoi, t'es pas maman, t'es égoïste. Enfin, t'as envie de dire, mais ça va, je fais un peu ce que je veux déjà, d'une, et de deux, la liberté, le féminisme, c'est quoi? C'est de respecter les choix de chacune. Et dans ce film.
C'est pas que le féminisme, ça. C'est
oui, mais moi, je parle surtout. Quand c'est les femmes qui te renvoient ça, c'est encore plus violent.
Oh, l'égoïsme de la gonzesse.
Mais Leïla, elle pose des questions de plus en plus
courtes.
Oui,
mais je fais comme toi, Albert.
Il n'y a pas encore
eu la question.
Et
il y a le personnage aussi de Pascal qui est intéressant de ce point de vue-là.
Oui, parce que elle peut pas avoir d'enfant. Et moi, en fait, j'ai vécu les deux parties dans ma vie. Je suis née, à 18 ans, on m'a diagnostiqué cette maladie dont on parle de plus en plus, et tant mieux. Pardon, j'en fais tomber.
Rien, c'est qu'une bouteille d'eau fermée, donc ça ne risque rien. Ne l'ouvre pas, s'il te plaît. Hein.
et ce qui est l'endométriose, et à 18 ans, on m'a dit, c'est fini. Enfin, en tout cas, il y a très peu de chance. Et donc, j'ai eu un parcours de femme ne pouvant pas avoir d'enfant. Ça a été difficile, et en même temps, ça m'a donné comme une autonomie par rapport au schéma qu'on doit a priori avoir.
Oui, c'est le regard de la société.
De la société. J'avais beau dire que c'était lié à une maladie, en fait, il y a quand même quelque chose qui n'est pas...
Dans l'égocentrisme, c'était elle pense qu'à elle...
Oui, il y a un problème.
T'es pas fini.
Oui, et puis quand j'ai eu la possibilité d'en avoir, il fallait que je me batte, j'ai abandonné au bout d'un moment, c'est trop difficile. Et puis j'ai un miracle, j'ai rencontré un très bon médecin. qui m'a aidée et qui fait que je suis devenue une mère. Mais donc je ne sais pas ce que c'est que l'instinct maternel. Et en même temps, je crois qu'il n'existe pas complètement. Et en même temps, je crois qu'en nous, on a une force de vie puissante et qui fait quand on rencontre un homme, parfois il y a des miracles. Mais pas toujours. Et quand c'est pas toujours le cas, les femmes que je connais qui n'ont pas d'enfants, qui ne peuvent pas en avoir. Je trouve
qui
que c'est
ne veulent
une...
pas.
Qui ne veulent pas. Je trouve que c'est une autre vie, mais c'est une vie.
Alors les hommes sont présents aussi dans ce film par ceux qui demandent à être papa. C'est le cas de votre étudiant, puisqu'il se trouve que vous êtes prof et que vous couchez avec l'un de vos élèves en fac.
Pour avoir la paix, elle se dit les petits jeunes ils vont me foutre la paix, et non. Ils vont pas me saouler avec un gosse.
C'est quand même un bel amphi, hein.
Ouais.
Il y a la paternité de Vincent de Dienne qui fuit peut-être une forme de réalité avec Noémie Merlant, extrêmement extrêmement drôle et juste. Là aussi, elle a pas beaucoup de lignes, comme on dit en termes de dialogue, mais elle a une présence qui est là, qui est permanente, comme un fantôme. Ah oui, ça, c'est clairement, mais comme un fantôme qui vient hanter Vincent de Dienne dans sa vie de serveur dans son troquet. Et puis il y a Pascal de Melon qui est là aussi en attente ou en demande de paternité dans un couple homosexuel. Donc il y a toutes les vues, toutes les perceptions.
Et à un moment donné, elle voulait changer le titre. Elle voulait que ça s'appelle La Faute des Mères, en fait, que le E soit.
D'accord.
Ouais, voilà.
Avec une faute,
exactement.
Carrément.
Voilà, avec un O. Bah, ouais. Donc c'est après, ça vient d'elle, une nécessité.
Alors
de
c'est quoi, c'est une comédie psychanalytique, ni dramatique ni romantique. Elle est.
On
est dans l'analyse
parcours,
un peu quand même.
C'est vrai que nous, ce qu'on aime dans le film, c'est que ça rentre. Enfin, on a la sensation que ça rentre pas dans une case.
C'est vrai.
Si on se dit pas, tiens, bon.
Il y a des moments, autant des moments drôles que des moments de larmes.
Oui.
Si vous réussissez à ne pas pleurer, ne serait-ce que sur le générique de fin.
Ouais, c'est...
Oui,
c'est
vrai. Générique de fin,
incroyable.
Il est bouleversant.
Oui, c'est beau.
Ouais. Ah ouais. Il est bouleversant, voilà.
Mais il y a plein de gens en rencontre. Là, on vient de faire la tournée province, enfin, des avant-premières. Il y a un homme qui m'a dit très simplement, écoutez, moi, j'ai dépensé énormément d'argent et énormément de temps dans des analyses et des thérapies. Et là, pour 10 euros, 1h45, j'ai dénoué plein de choses. Je fais, ok, bah, alors c'est vraiment.
Non, c'est un film qui fait du bien, voilà. Et avec un casting formidable. Comme avait dit un jour Spielberg dans une conférence de presse, lorsqu'on lui demandait comment faire un bon film, il avait dit, prenez une bonne histoire. Des bons comédiens et un bon réalisateur, vous avez une bonne base. C'est un peu ce qui se passe.
Pas
Marie Castille, mention char, dont on avait parlé ici avec Le Ciel attendra, où on avait retrouvé d'ailleurs Noémie Merlant dans ce film et Sandrine Bonner, si j'ai bonne mémoire.
Et elle avait fait un film extraordinaire avant aussi, Les Héritiers.
Ah oui.
Vraiment, qui devrait être obligatoire. Je l'ai pas vu dans toutes les écoles.
J'aime bien la notion d'un film qui devrait être obligatoire.
Ah ouais, moi je pense qu'il devrait être au collège. ça perd ton nom.
C'est obligatoire. Bienvenue à Nazilande.
C'est ça. Ça, c'est interdit, c'est celui. Okay.
Ça s'appelle La Fête des Mères, c'est dans 2 jours. Et que vous soyez maman ou pas, que vous ayez réglé ou pas vos problèmes avec votre propre maman, que vous soyez papa ou pas.
Si vous en avez marre de dépenser des fortunes chez le psy.
C'est ça.
Papa outé, tout le monde est concerné par cette Fête des Mères qui sort dans 2 jours, n'est-ce pas, Maréchal Ganache?
Bah écoutez, je vais être franc avec vous, mon cher.
Pour une fois.
Longtemps, très longtemps, trop longtemps, vous écoutant, vous laissez charrier, moquer, houspiller par la bande d'histrions, aussi inculte que mal coiffée, qui vous entoure, j'ai pensé que vous étiez un gars faiblard, qui avait rien dans le froc. Eh bien, je le reconnais, je m'étais trompé sur vous, Nagui, et sur toute la ligne, comme disait mon copain Maginot. Car faut en avoir dans le froc, non mais je recite dans l'époque,
oui,
car faut en avoir dans le froc, et même en avoir un sacré paquet, pour évoquer, comme vous le faites aujourd'hui, la fête des mères. Sur une radio humanisto, progresso, gaucho, repentanso, égalitaro, féministe, où il est mal vu d'exalter les vertus féminines dans ce qu'elles ont de plus noble, à savoir le ménage, et aussi le nourrissage et l'élevage des marmots. Mais je suis venu avec un ami, Nagui, qui tient à faire passer un message aux auditrices.
Mon Dieu.
Vous le connaissez?
Ah bon?
Il s'agit de Jean-Philippe Pétain, le neveu du maréchal Pétain.
Ouais, c'est ça.
Maman française, souvenez-vous. Contrairement à ce que dit Madame Côte, c'est mon bon tonton Philippe qui, en 1941, une bien belle année, instaura en France la fête des mères pour exprimer la reconnaissance de la patrie à toutes ces mamans courageuses qui supportèrent les épreuves les plus rudes, un des moments les plus sombres de notre histoire. Malheureusement, Monsieur Nagui,
c'est Alf.
En ce qui concerne ce film, toi, tu vas finir à Drancy. Je ne partage pas votre enthousiasme ni celui de mon ami Ganache. Les mères que vous encensez ce matin ne sont que de mauvaises françaises. En effet, alors que mon tonton Philippe avait interdit que les femmes mariées travaillassent afin qu'elles restassent au foyer pour qu'elles procréassent en masse le bon petit français blond et nourri à la mamelle, toutes les femmes du film, de ce film regrettable, La Fête des Mères, au lieu de rester à la maison, exercent un métier. Et honte des hontes, il y a parmi elles une présidente de la République.
C'est vrai.
Je ne vous félicite donc pas, mesdames Côte et Arbillot, et je ne vous présente pas mes hommages. Quant à vous, Nagui, sachez que le beau titre d'animateur préféré des Français qui vous est attribué reste pour moi une douloureuse énigme.
Comme pour Simès, oui.
Je préférerais le bon docteur Simès. Alors, pour que ça cesse, chers auditeurs, chères auditrices, n'écoutez pas cette émission. Adieu.
Merci.
France Inter. Nagui. La bande originale.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé qu'il y avait la présidente de la République, puisque on est dans une république matriarcale sur ce coup-là. Audrey Fleurot est une maman avec le premier homme de France.
Matriarcale, je ne suis pas sûr.
Non, matriarcale, non. Mais ouais. On n'y est pas encore.
Quoi. Une présidente.
Oui, c'est une présidente.
Une présidente.
Ne parle pas de malheur.
Et un premier homme de France, joué par Gustave Carvel.
Premier monsieur de France.
C'est ça, c'est ça. Non, mais il y a vraiment de multiples facettes que l'on peut trouver dans ce film, mais je pense que vous devez même vous en rendre compte dans les interviews ou les rencontres que vous faites avec le public. Chacun y voit une porte d'entrée qui est forcément différente de celle de son voisin.
Mais parfois, c'est vraiment très très surprenant. C'est vraiment de l'intimité pure, quoi. Il y a des gens qui nous racontent des choses, on est un peu gênés. On fait « Ah, ok, d'accord. » Mais vraiment, pendant 20 minutes, il y a quelqu'un qui prend la parole et qui...
Est-ce que, comme Pascal Arbillot l'a dit tout à l'heure, vous avez retrouvé aussi une part d'analyse pour vous aussi?
Oh non, mais vous savez... Non, je me pose pas ces questions-là. Je dis les phrases qui sont écrites sur le papier. Et non, je me pose pas de questions.
Quand on interprète Olivier, on va bien chercher aussi quelque chose dans sa propre histoire, non?
Moi, je me suis concentrée surtout sur pas faire trop de grimaces, en fait, pendant tout le film. C'est vraiment
plus simple. Vous avez envie de déconner?
Oui, en général... Vous aimez ça?
Ouais,
j'aime ça. Et là, vraiment, je n'avais vraiment absolument pas le droit d'être expressive avec mon visage. Donc
non, mais répondez à la question.
Ok. Écoutez, j'ai pleuré pendant 3 mois sur ce putain de film. Putain, pourquoi j'ai pas eu d'enfant?
Vous êtes expressive avec votre corps,
oui.
En tout cas.
Oui, ouais.
C'est pas des grimaces, mais en tout cas, avec votre corps, oui. La fête des mères sort ce mercredi, on vous encourage à le voir. Il n'est pas encore obligatoire, vous êtes libre d'y aller, c'est un bon conseil en tout cas.
Attention.
Que de le voir. Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit qu'Olivia Cotte et Pascal Arbillot venaient aujourd'hui.
Et oui, et quand je pense à vous, à toutes les deux, je pense évidemment à vos carrières, mais je pense aussi à une dimension un peu plus musicale. Vous, Olivia, la première fois que je vous ai vue en vrai, c'était sur scène, dans les bulles de Claire Castillon, mise en scène de Marion Vernoux.
Ah, dis donc.
Et je vous avais trouvé d'une plasticité, d'une aisance, quelque chose.
C'est ce que tu nous avais dit, non?
Bah si, on se connaît. C'est pas encore, c'est pour
ça.
D'une aisance assez insensée. Et forcément, quand on vous regarde et quand on cherche un petit peu, on comprend pourquoi votre première idole, c'était plutôt elle. I'm singing in the rain, just singing in the rain.
What a glorious feeling. Si j'ai un enfant, c'est Gene Kelly qui me le fait. Gene Kelly est mort, donc laisse tomber.
Gene Kelly, votre première idole.
Et c'est vrai, et pour le coup, Marie-Cassie m'a fait un tout petit cadeau en me disant, dis qui tu veux. J'ai dit, moi, Gene Kelly, c'est vrai que depuis mes 3 ans et demi, c'est vraiment mon idole, quoi.
Ouais.
C'est l'homme. Oui, c'est vrai qu'en plus, moi, dans la vie, j'aurais pu faire un enfant avec cet homme. Il n'aurait peut-être pas été très présent, mais j'aurais suivi sur tous ces tournages. Je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas de regarder ce film. Je regarde peut-être une fois par semaine.
Ah bon?
Ah ouais. Ça me fait un bien fou. Là, j'ai découvert Funny Face que j'avais jamais vu.
Je ne comprenais pas dans Singing in the Rain pour le revoir.
Je n'ai pas compris cette réplique. Et Joe, pour Quentin Tarantule, je ne comprends pas cette phrase.
Vous avez fait longtemps
avec cette phrase extraordinaire.
Vous avez fait des claquettes pendant très très longtemps, en fait. Vous avez commencé...
Non, pas pendant très 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 longtemps, pendant à peu près
19
40 ans.
Ans.
Non, c'est ça. De mes 10 à mes 25 à peu près.
D'accord.
C'est long, quand
même. C'est
hyper long.
Arriver à 25 ans, c'est la moitié d'une vie, quoi, vous voyez, quand même.
Non, mais ce qui fait de vous aussi une comédienne à part, c'est-à-dire que vous avez aussi un rapport au corps qui est très, très particulier. On peut vous voir danser à la fin du film, mais pas simplement. Je vous ai vu dans Larguer récemment, d'Héloïse Lang. J'ai trouvé ce film exceptionnel. J'y allais, je vous cache pas, un peu à reculons. Je vous dis, oh là là, une comédie de film.
D'ailleurs, elle a vu le film de dos, en plus.
Oui, c'est ça, avec Camille Chamou et Camille Cotin et Miu Miu. Et en fait, je suis sortie un vrai coup de cœur pour ce film. Et on vous découvre là encore dans un rôle plutôt comique.
Oui, là pour le coup, oui. J'ai le droit de faire des têtes. Alors non, elle n'est pas teubée, elle est lunaire. Attention, ça n'a rien à voir.
C'est quoi,
je ne
plane.
Supporte pas.
Non, mais Jérémy, là, attention, faute.
Elle dit oui à la vie. Voilà, elle n'a pas de jugement.
Mais à chaque fois, vous donnez un supplément d'âme à vos personnages parce qu'il y a, le rôle que vous interprétez, puis il y a la façon dont vous le faites. En fait, je trouve qu'il y a un truc dans votre corps qui est vraiment très, très impressionnant dans ce que vous apportez au personnage. Et vous, Pascal, quand je pense à vous, je pense aussi à la musique.
Merci. Pauline, elle est discrète. Elle oublie qu'elle est belle.
Ah bon,
elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel.
Pardon, bientôt, je sais. Bah oui, même pas y penser. 25
secondes. Vous avez l'air étonné.
Mais pas du tout.
Je suis tout à fait.
C'est Big Flo et Oli dans le clip de Pauline. Et c'est vous, Pauline.
Oui, c'est moi.
Comment vous êtes retrouvés avec Big Flo et Oli, nos deux rappeurs marseillais?
Dommage.
En fait, c'est le metteur en scène que je connaissais du clip qui m'a appelé. Et le même jour, mon fils, quand il a entendu que je éventuellement proposé de tourner dans un clip de Big Flo et Oli que je connaissais pas vraiment, il m'a dit quoi? Mais non, mais il faut trop que tu le fasses. Et donc je l'ai fait.
Il faut trop que tu le fasses.
Pour mon fils, pour le metteur en scène, et aussi je les ai rencontrés et je les trouve incroyables. D'humilité, ils sont bosseurs, ils sont gentils. Ils ont une formation classique, ils bossent, ils font 2-3 instruments, ils étaient au conservatoire à Toulouse, c'est des vrais bons petits gars, et je trouve ça incroyable. Et moi aussi, j'avais pas d'a priori,
vous n'avez aucun cliché sur les rappeurs normalement, parce que là vous avez l'air surprise que des rappeurs puissent connaître la musique.
Oui, c'est vrai, ça fait très cliché, très madame, très mémère, c'est vrai. ouais, c'est vrai, je suis d'accord, je reconnais. J'ai pris un coup là dans la gueule. Ok. Non, mais on va voilà.
Ah non, mais Nagui, il sait recevoir. Non, mais c'est bon.
Je connais Pascal. Je connais Pascal.
Ah, c'est pas du tout ça, mais je sais pas pourquoi. C'est parce que.
Ils font pas tous du violon, les mecs qui font
du rap. Non, la réalité. En fait, je parle pas de ça. C'est que dans le rap, à l'intérieur du rap, je trouve qu'ils sont très snob et très méchant les uns envers les autres.
Sectaire.
Absolument d'accord. Je dédouanais tout le monde de ce qu'on peut dire.
Enfin, Pascal, ça peut te rassurer, dans le monde du hard rock.
C'est pareil.
C'est-à-dire que. Dans le hard rock, il y a ceux qui sont pour le métal, il y a ceux qui sont pour le hard rock.
C'est chiant.
Et en France Inter, si vous saviez aussi ce qui se passe.
Mais rien qu'autour de cette table.
Et les enfants adorent cette chanson, des enfants
mais
de 6
ans. Les enfants adorent, mais même mon fils l'a dit. C'est la chanson la plus cool, mais le vrai rap, en fait, dans leur album, c'est mieux. Donc, ils me sortaient toutes les autres chansons. Donc, même mon fils a intégré le fait qu'il y a un rap cheesy, sweet, gnangnan, et un rap. Ah ouais, parce que je suis pas si vieille non plus que ça.
Cheesy, sweet.
Cheesy, sweet.
C'est pas un parfum de chips.
Attendez, maintenant je vais dire dur et carrément. On va être vraiment dans les années 80. Allez, au revoir.
Et puis qu'à dire wesh.
Wesh.
C'est ça, et on aura fait le tour.
Ah non, il manque. En scred. Je vais partir en scred là maintenant.
Tiens, à propos de musique.
C'est pas mon choix ça.
Non.
Le choix de personne.
Ouais. C'est le choix de Marie Cassie, mention chat. Alors c'est pas la version du film exactement, mais c'est à vous dirais-je maman, tu cherches l'air, c'est à vous dirais-je maman, c'est...
Oui, c'est...
Donc, deux Pascal cherche encore.
Deux octaves en dessous.
Mais Pascal, qu'est-ce que...
C'est une chanson pour enfants battus.
Ben, c'est pas mon truc.
Vous avez pas reconnu cette chanson?
Si, mais c'est pas mon... ça n'a pas bercé mon enfant.
J'adore Pascal. Attends, j'ai parlé sur cette chanson.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Mais oui, c'est quand même fou. Mais je pense que j'ai fait un blocage jeune sur les cantines enfantines. J'aime pas ça, ça m'angoisse.
En tout cas, c'est la petite musique. Enfin, c'est une version que piano d'ailleurs.
Elle est dans le film.
Mais bien sûr.
Ah, d'accord. Ok. Vous
aussi, vous êtes dedans. Il y a
34 versions.
Mais ça devrait être obligatoire de voir la fête de
mai.
Le film sort dans 2 jours. Pascal Arbiot va le voir, donc faites comme elle.
Allez
voir ce film aussi, Jérémy Crenville.
Juste là. Alors, salut les amis, et salut Nagui. Nous sommes aujourd'hui un lundi férié, et comme chaque jour férié, ma chronique tombera dans l'oubli. À ce sujet, j'ai une pensée émue pour David Charvet. Bon. Lundi férié, double peine, hein, c'est comme manger une masse d'étoiles avec Patrick Bosso qui rigole, vraiment. Déjà, parce qu'on est lundi, on aurait pu rebaptiser ce jour mais en plus, férié. Donc je sais que le community manager d'Inter est plus occupé à regarder ses ongles de pied poussés qu'à faire vivre l'émission sur les réseaux sociaux. Au passage, est-ce que je ressemble à un micro dans une peau de banane rouge?
Non.
D'accord. Donc va falloir penser à changer ma photo sur France Inter parce que je suis là depuis le 5 février et j'ai toujours cette image double phallique associée à mon nom. Tu me diras que vous, Tanguy Pastureau.
Il y a une banane et un micro.
L'image Jérémy Crédville, c'est un micro dans une peau de banane rouge. Tout le temps.
Ah ouais,
c'est gueule.
Et pourquoi voilà. C'est quoi de tes
cheveux ? Je ne sais pas.
Non, c'est que
à cause de mes cheveux, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe ?
L'équipe informatique n'a pas trouvé la photo adéquate. C'est-à-dire, chaque fois qu'elle a vu une boule de poids, elle fait non, ça peut pas être.
Ouais.
Donc on mettra une autre photo.
En tout cas, Tanguy Pastureau, il est avec une pastèque, alors qu'il n'a pas forcément une grande passion pour les melons d'eau. Alors, bref, si les auditeurs veulent voir une photo de moi, qu'ils aillent sur Instagram, à côté de mon nom, il y a un badge. Il y a un jeu très amusant à faire. Je pense que foutez le R dans ce mot. C'est de cliquer sur le badge. Vous verrez que, comme ici, il ne se passe rien. Mais si vous cliquez sur s'abonner, vous verrez qu'il y a un chiffre en plus, chiffre qui me permettra de savoir combien de personnes à un âge respectable ont entendu ma chronique. Pour info, sur Facebook, hein, pour les anciens,
bah oui,
pour les anciens Facebook, c'est Caramel. Donc, sur Facebook, un jour normal, à la fin de ma chronique, tu as la drôle d'humeur de Jérémy Crédville, avec donc une image peau de banane micro, et un lien vidéo où tu peux clairement voir que derrière moi, les gens s'emmerdent. Jour férié, c'est juste marqué la drôle d'humeur de Jérémy Crédville, sans lien. À quoi ça sert? Le mec veut-il se venger parce qu'à Noël il a reçu un jouet sans pile? Je ne sais pas. Est-il fan de monochrome? Est-ce qu'il aime la creuse? J'en sais rien. Il manque un truc. Hein, c'est comme faire un baby-foot avec Philippe Croizon. C'est compliqué.
Oh,
on l'embrasse. On rappelle que c'est une personne qui n'a ni bras ni jambes.
Mais qui traverse la Manche en nageant.
Ouais.
C'est ça. Ah ouais, non, non.
Et qui a d'humour, et qui a beaucoup d'humour.
Et qui est très drôle.
C'est ça, je pense que je me permets. Le poste, hein, dans ce cas-là, il a autant d'intérêt qu'un curly déjà mâché. Alors, je suis malhonnête car on m'a donné une explication à ça. Je cite. Entre guillemets, une erreur lors d'une opération de maintenance sur la plateforme d'Alet a entraîné la perte de vidéos que nous conservons avant leur publication. Sont concernées au moins 8 vidéos, donc 8 vidéos de chronique de la bande originale des 10 et 11 mai. Donc sur les 8, il doit y en avoir 12 des miennes et 2 intemporelles de la matinale 7-9. Bon, bah, je crois qu'on est maudits, hein, qu'on veut notre mort, à moins que la plateforme d'Alet n'aime pas notre humour. Mais ça, je peux pas le croire. En attendant, les autres chroniqueurs l'ont bien compris, aucun d'entre eux n'était disponible pour ce lundi. Marina Rollman a une ablation de la prostate. C'est ce qu'elle m'a dit. Frédéric Sigrist a dit qu'il faisait du sport. Guillermo Guiz est chez l'orthophoniste et Alison Wheeler m'a dit, t'es qui ? Chroniquer un jour férié, c'est donc tenter de faire de l'écho dans une pièce pleine ou tenter d'avoir une conversation sensée avec Nagui qui dit que le temps passe 4 fois plus vite parce qu'il a 4 saisons. Une chronique, je vous l'ai déjà dit.
Ouais. Mon Dieu.
Une chronique un jour férié, c'est aussi utile qu'une flûte à bec après le collège ou le bouton partagé sous une vidéo porno. Je suis athée, mais j'en veux un petit peu à Dieu puisque la plupart des jours fériés, on les doit à Jésus ou à la guerre. Hein. Et qu'est-ce que la Pentecôte à part un oxymore ?
Ah ouais,
oui, parce qu'en
ouais,
général, la pente,
côte,
oui, tu la descends, la côte, tu la montes. N'est-ce pas, jolie Leïla? Ah bah encore un oxymore. D'ailleurs, chers auditeurs, voilà, connaissez-vous réellement Leïla? Parce que si ses oreilles sifflent, les miennes traînent. Et au détour d'un couloir, j'ai pu entendre Leïla dire des choses troublantes. Du genre, j'adore me balader dans les supermarchés. Histoire vraie. Et puis alors, les Auchans, c'est gigantesque. J'ai une passion pour les shampoings. Résultat, je suis reparti avec des carottes râpées. Vraie conversation, je vous jure que je l'ai entendue. Et oui, messieurs, dames, cette femme qu'on croit distinguée repart souvent avec des carottes râpées. Voilà, en tout cas on sait tout, hein, on sait toujours pas ce qu'est la Pentecôte, mais on en saura un peu plus sur Leïla, et pas d'inquiétude Leïla, en ce jour férié il n'y aura pas forcément de traces sur les internets.
Merci Jérémy Crédville.
La bande originale, Nagui. Sur
France Inter. J'ai une passion pour les supermarchés parce que je trouve ça complètement incroyable.
C'est vrai que c'est dingue.
Mais c'est le piège.
Quand t'es à Paris, tu vas jamais au supermarché.
Le piège du supermarché, c'est que quand tu y rentres pour un truc, tu repars avec 10 fois plus que ce que tu voulais parce que tu dis ah ouais, il y a ça. Ah tiens, ça c'est pas mal.
D'où les canaillis, on reprend le cours de l'émission.
Oulala.
Moi, je suis d'accord.
Puisqu'on en est, puisqu'on est
en province avec
je me suis retrouvé à acheter une pince en bois.
Ah bah c'est très utile.
Pour attraper le
cornichon.
Non, le toast. Non, le toast, c'est pas brûlé dans le toaster.
Ouais, grille pain, ça sert à rien. Parce qu'avec une fourchette, tu y arrives aussi bien, quoi.
Oui, mais pas qu'on peut s'électrocuter.
Tu risques
de tous les matins. Ouais. Mais je le fais tous les matins.
C'est surréaliste, cette Pentecôte.
Dans quelques minutes, nous allons recevoir Brigitte Grézy. Brigitte est secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ça sent le plus affectif.
Elle est auteure de nombreux rapports sur la parentalité. Et évidemment, on va parler de la fête des mères, le film, et de la fête des mères, pourquoi pas la tradition, avec elle. Mais d'abord en musique, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous écoutiez, Olivia Cotte-Pascal Arbillot? Puisqu'on voit que Pascal Arbillot est pointu en musique, on va découvrir aussi les goûts musicaux d'Olivia Cotte. On va commencer en 98. Pascal Arbillot, vous écoutiez Portiched. Le trip-hop. Vous écoutez ça en musique d'ambiance à la maison ou vous êtes en méditation?
D'abord, c'était l'époque où il y avait tous ces groupes-là, ou Björk ou Portishead, dont on écoutait en entier l'album. Ouais. Les débuts
Massive Attack,
Morshiba, tous et tout.
Morshiba, que nous avons reçu la semaine dernière.
Formidable. Et j'étais fan de Beige Gibbon, tout ça. Et surtout, c'est que c'était l'époque où il y avait MTV. Et on tournait beaucoup à l'étranger à l'époque, comme on recommence d'ailleurs aujourd'hui, parce que c'était moins cher. On était beaucoup en Tchéquie après quand on tournait les télévisions. Ouais. Et il n'y avait que MTV, et c'était tous les débuts du clip. Donc on avait à la fois une nouvelle musique et des clips incroyables. C'était les débuts des clips de Björk, du metteur en scène, là, dont j'ai oublié le nom.
Lars von Trier.
Lars von Trier.
Gondry, alors peut-être.
Merdi.
Génial, c'est Merdi.
Merdi.
Ah, c'est
Merdi.
Un bon réalisateur, lui.
Merdi Dagry.
Oh là là, non mais c'est horrible. Vraiment,
en tout cas, vous inquiétez pas, Pascal. Parce que
moi aussi, je t'en. Merci.
Merdi.
Les clips de Merdi, c'est
Demain, Merdi, non?
C'est demain, Merdi.
Et en fait, l'arrivée de l'esprit, ça.
C'est charitable. On est en 98, Pascal. Et à cette époque-là, vous jouez dans plusieurs téléfilms.
Bah voilà.
C'est la période où vous allez tourner un peu à l'étranger, c'est ça?
Et
dans la liste des téléfilms, il y a Bonne Fête Papa, d'ailleurs.
Ah, vous faisiez
la remarque.
Mais ouais,
Didier Fontan, vous souvenez?
Incroyable. C'était un de mes profs au cours, Pierre Moni, il avait fait un téléfilm. Et je ne me souviens pas du tout de pourquoi ça s'appelait Bonne Fête Papa.
Mais Léla va vous le dire, Léla.
C'est pas non, mais je ne l'ai pas vu. Je sais que c'est obligatoire, mais je ne l'ai pas vu celui-là. Et quel souvenir vous gardez de cette période de téléfilm
un souvenir d'insouciance incroyable. Et puis moi, je découvrais ce métier. Je n'ai pas du tout de famille dans ce milieu-là. Et j'avais un parcours plutôt sérieux, classique, à l'école. Ma mère me disant, il faut être indépendante, il faut travailler, il faut faire des études.
Vous aviez l'angoisse de ne pas travailler?
Je l'ai un peu toujours eu. Et je la combats par le travail. Et par...
un peu l'alcool aussi, non?
Aussi, c'est pour ça que je dis merdi, je crois. Ouais. Et je l'ai toujours eu, mais c'est horrible. Non, moi,
allez-y, Pascal, chez vous.
Ouais, j'ai toujours eu, mais en fait, j'ai surtout l'angoisse du travail obligatoire, pour le coup, du travail qu'on n'aime pas. J'ai l'angoisse de l'obligation, bizarrement, de ne pas être heureux. Moi, j'ai commencé j'ai commencé sans savoir pourquoi je voulais travailler. Je trouve que le rapport au travail aujourd'hui est très compliqué parce qu'on en a besoin pour vivre, pour manger, pour payer ses impôts, mais on ne sait pas toujours et qu'on a à la fois un développement technologique qui nous permet d'être libre, de voyager, dans le virtuel, et en même temps il faut quand même aller bosser, et personne n'est rentier, et c'est un métier là qui donne l'illusion
qu'on est libre.
Qu'on est libre, et on ne l'est pas. On doit vraiment, on est un vrai petit artisan, on a une propre entreprise. Et c'est une époque où je travaillais beaucoup aussi parce que j'acceptais tout.
Par peur de manquer?
Non, parce que j'avais jamais travaillé.
Curiosité, découvrir des choses
parce que je faisais mon métier, j'apprenais.
En 98, Olivia Cotte, vous écoutiez Barbara.
Quel joli temps pour se dire au revoir.
Pas de la musique de supermarché, ça.
Quel joli soir pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour s'en va, mon cœur s'arrête.
Quelle image avez-vous en écoutant cette musique?
J'ai envie de chialer.
Ah bah bien sûr.
J'avais peur de la suite.
Cette chanson est sublime. Mais en fait, j'ai fait une pause avec Barbara. J'ai découvert Barbara à 15 ans, comme beaucoup de jeunes filles de ma génération, avec les disques de ma mère, les vinyles de ma mère. Et là, vraiment, j'ai eu un choc. Je me suis dit, ok, donc on peut être à la fois mélancolique, avec une lumière autour, on peut accepter d'être mélancolique tout en étant gay. Parce que je trouve que Barbara, c'est vraiment ça. Donc elle m'a vraiment aidée à passer ma crise d'adolescence, comme ça. Et donc j'ai un peu laissé tomber pour écouter, Portishead ou d'autres choses, ou Schubert aussi beaucoup, mais bon, pareil, Schubert c'est la gaieté et la mélancolie en même temps. Bon, je l'ai un peu laissé tomber, et quand je suis rentrée au TNS, je tombais sur une bande de filles à Strasbourg, école de théâtre, où toutes les filles avaient des robes à fleurs et des Doc Martens, et elles écoutaient en boucle encore, elles étaient un tout petit peu plus jeunes que moi, elles avaient 18 ans, moi j'avais 23 ans quand je suis rentrée, et elles écoutaient Barbara encore beaucoup. Donc j'ai réécouté Barbara, Et j'ai fait, ah ouais, non, mais c'est vrai que quand même, oh, bah, c'est un génie, quoi. Je l'ai laissé tomber pendant 8 ans, mais donc je la retrouve avec plaisir. Et surtout, c'était la première fois que je chantais accompagnée au piano par des gens, parce que quand tu es au TNS, tu apprends à chanter, tu as une dame, qui s'appelle Stéphanie Selva, adorable, qui t'accompagne au piano. Et là, c'était quand même inouï d'apprendre à chanter en chantant Barbara avec les copines qui avaient les larmes aux yeux. C'est trop beau. Et voilà, et on avait toutes les larmes aux yeux, les unes après les autres, en s'écoutant chanter Barbara. Donc c'était merveilleux.
Et avant d'intégrer le TNS, le Théâtre National de Strasbourg, vous avez déjà monté une mise en scène avec justement Judith Siboni.
Comment vous savez cette chose improbable?
Vue de la lune, oui, on est tous.
On ne dit pas cette chose,
bleus.
On parle d'un être humain.
Je parlais de mon œuvre.
Ça s'appelle Vue de la lune, oui, on est tous bleus.
Tout à fait. Vue de la lune, on est tous bleus. Une pièce que j'ai écrite à 21 ans. Ni fête ni affaire. Et oui, on l'a.
Ouais, mais si.
Et on
si.
L'a joué pendant 2 ans. Oui, et Judith évidemment était dedans. Mais je connais Judith avec qui j'ai créé Vous les femmes depuis qu'on a 13 ans. C'est vraiment mon ami.
Ouais, c'est un équipage.
C'est une frangine à ce moment-là.
C'est une fois, ouais. C'est la zine coup. C'est vraiment. Ouais. C'est comme ma sœur en effet.
Et après, vous éprouvez quand même le besoin de repasser par l'école. C'est-à-dire que.
Bah, c'était pour fuir une histoire d'amour déplorable à Paris. Donc j'ai passé le concours à Strasbourg. Et non, mais oui, je voulais être metteur en scène et écrire des pièces. J'avais pas beaucoup joué au théâtre, ouais. Jamais. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment cliché, mais c'est vrai que à l'époque, je me disais, pour diriger des acteurs, c'est mot diriger et pas. Enfin, pour comprendre des acteurs, il faut passer par là, et du coup, je suis rentrée dans cette école.
J'ai du mal à comprendre vos phrases.
Mais je vais très vite.
Mais vous rencontrez aussi à Strasbourg, et c'est important, pas mal de compagnons de théâtre qui vont former le groupe Incognito avec vous.
Mais exactement, mais tout à fait. Et donc, ouais, voilà, tout à fait.
C'est quoi ce groupe?
C'est Navarro.
On a, c'est une troupe de théâtre.
Il n'y a pas que Shampoing.
On a monté 5 cabarets ensemble. On a joué au Brésil même. Un cabaret qui s'appelait le Cabaret des Utopies. Et c'était merveilleux de découvrir que les Brésiliens n'avaient pas le même problème que nous sur eux. Nous, notre problème c'est la culpabilité judéo-chrétienne par rapport au sexe, et eux c'est par rapport à leur mère. Donc nous, on faisait des sketchs sur cette espèce d'effroi qu'on a par rapport au sexe, la gêne et tout ça, et eux c'était par rapport à la maman, quoi. S'ils loupent un dimanche après-midi avec leur mère, ils s'en remettent pas et... voilà. Donc c'était marrant. Donc oui, on a fait le cabaret des vanités aussi, sur la mort et tout ça.
Quand on parle cabaret, c'est-à-dire que c'était du spectacle aussi bien... pour aller le faire au Brésil, il faut que ce soit que du visuel, ou vous le faisiez
en
portugais?
Non, il y avait beaucoup de textes, mais c'était traduit. C'était traduit en français pour les Français qui venaient le voir. Surtitré.
D'accord.
Et en fait, il y avait les Portugais qui chantaient et qui disaient des textes en portugais, qui parlaient aussi beaucoup de l'Amazonie. Ils étaient très fixés sur l'Amazonie.
Sur la défense de l'Amazonie.
Sur la défense de l'Amazonie, ouais. Et donc et donc les Portugais, les Brésiliens, ils comprenaient, et puis nous, les Français, on était sous-titrés.
D'accord.
Ça, c'était génial.
En 2006-2007, Pascal Rabillot, vous êtes sur scène et vous écoutiez Barry White. The way you move, girl, only made me want you more. I did not know you had been hypnotized. To the movement of your body dancing in my eyes. I know I had to hold you and make you mine. On a toujours l'impression de lier comme ça Barry White à des histoires sexuelles. Et quand on traduit le titre de cette chanson, ça ne l'est pas du tout, puisque c'est l'extase quand tu t'allonges près de moi. C'est le titre.
C'est du sexe, ça, quand une femme s'allonge à côté de soi.
Potentiellement.
Ça peut être un bon début, quand même.
Ça peut aller faire aussi une.
Je ne sais pas gagner non plus.
Ça peut être chez le psy aussi.
Tu t'allonges à côté de
toi. Oui, sur le divan, bien sûr.
Je pense ça va. Pascal, vous, en 2006, vous êtes à l'affiche d'Adultère.
Ah oui.
Elle redécouvre sa vie. Elle vient ici pour faire un checkpoint.
Alors c'est une pièce de Woody Allen, Pascal. La mise en scène était signée Benoît Lavigne.
C'était extraordinaire. C'était 3 pièces en un acte.
Ouais.
Il y avait un nombre de choses à jouer, un nombre d'acteurs incroyables.
Vous étiez avec Valérie Carcenti, je crois.
Ouais.
C'était vachement bien, c'était à l'atelier.
C'était à l'atelier, c'était extraordinaire.
Et quand on a parlé tout à l'heure du téléfilm, du cinéma, du théâtre, s'il fallait en choisir un seul, même si c'est un choix difficile.
Alors là, je suis incapable. Je pense que le théâtre me manquera toujours, alors peut-être une tournée peut ne pas manquer. Le théâtre,
s'il fallait choisir un théâtre.
C'est-à-dire dans la ville de Paris
Il y en a un qui a des ondes particulières, je ne sais pas, mais j'imagine que les lieux comptent, non?
Ah, je rêverais, moi, de jouer au Bouffe du Nord. C'est mon rêve absolu.
Non, je pense que les lieux ont leur histoire aussi.
Pour moi, les Bouffes du Nord, d'abord, j'ai vu des spectacles inouïs, La Tempête de Brooke. J'ai des souvenirs incroyables dans ce lieu. Il y a une proportion de la salle, quelque chose d'antique, parce qu'il y a juste...
Après un bombardement, là, la salle.
Oui, le sol, c'est de la terre battue.
Le sol, c'est de la terre battue, et quelque chose de très simple.
Ça a l'air pas fini, quoi.
Ouais. Ah, mais un peu. Il y a les metteurs en scène inouïs.
Et pourquoi le tourner, ça vous manquerait moins que d'être au théâtre? Qu'est-ce qui se joue?
Parce qu'il y a un danger, il y a un rapport immédiat, il y a une vraie, alors pour le coup une vraie catharsis, et il y a une implication physique incroyable qui est de l'ordre du sportif,
ouais.
Et qui a moins au cinéma.
Dans ces mêmes années, Olivia Cotte, vous écoutiez en 2006-2007 Thomas Fersen.
Dans la cour de l'école, on m'appelait peau de colle. Dans la cour du bahut, on m'appelait la glu. On m'appelait la sangsue, on m'appelait le morpion. Enfin bref, on me donnait de jolis petits noms.
C'est cette chanson en particulier ?
Ben on l'a chantée dans un cabaret. Donc, à cette époque-là, en 2006-2007, j'ai découvert beaucoup de chanteuses comme Camille, Pauline Croze, Clarica, Jeanne Chéral, j'étais vraiment à fond sur les femmes qui écrivaient des chansons. Tout le monde me dit ah ouais, vas-y, t'es féministe, il y a plein de mecs super. Je fais ah bon, bah qui ? Et on m'a balancé du Albin de la Simone, où j'étais fan. Donc plein de gars aussi que j'ai découvert à cette époque-là.
Mathieu Bogart, ouais.
Mathieu Bogart. Ouais, non, mais j'ai pas trop écouté ça. Et tout à coup, il y a un des Jean-Baptiste Verquin qui était au TNS avec moi et avec qui on faisait encore des cabarets en 2006 à l'époque. Il m'a fait découvrir Thomas Fersen et j'ai trouvé ça prodigieux, parce que c'est un peu comme des chansons pour enfants presque, qui sont très légères, très littéraires, et j'adore ce gars, et j'ai écouté en boucle ses albums, beaucoup.
Puis il est tellement élégant.
Il est élégant, j'adore, je le trouve super.
Pardon. 2007, mais non, je l'aime beaucoup aussi. ça c'est plus. En 2007, vous Olivier, c'est la création de Vous les femmes, on l'a évoqué tout à l'heure, avec Judith Siboni. Comment est partie l'idée de ce programme court? C'était quoi, des sketchs de 2 minutes à peu
Alors
près.
On avait vraiment envie de se poêler. C'est vraiment parti de la poêlade. En fait, quand je suis rentrée au TNS, elle a intégré le Conservatoire National de Paris. Je dis pas que le théâtre c'est pas la poêlade, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était vraiment engagés dans beaucoup de spectacles un peu sombres, des Gaby Lee, Yon Foss, enfin des auteurs comme ça. Vraiment, bah, tu rigoles pas du tout. Et on s'est dit, ok, non, mais là, on va crever, en fait. On adore le théâtre. On adore le théâtre, mais on a vraiment envie de rigoler, quoi. Il faut qu'on crée quelque chose ensemble où on rit. Et du coup, quelqu'un nous a dit, mais faites vos trucs que vous faites dans les soirées, parce que souvent, dans les soirées, on faisait les malines, on inventait des petites scènes, comme ça, pour provoquer nos amis. Il dit, filmez ça. Et donc, on en a filmé et on a envoyé à des producteurs. Voilà.
C'est à partir de Vous les femmes que vous vous êtes dit que le corps de la femme pouvait faire rire et pas uniquement être un objet de désir.
Mais moi j'ai été élevée par un papa danseur, très très féministe, qui depuis que j'ai 3-4 ans me dit que déjà les femmes ont le droit de s'exprimer, de faire les andouilles, de faire rire. Et du coup j'ai vraiment été élevée, par ma mère aussi, mais c'est vrai que mon père a été très moteur de ça. Tu ne sais pas parce que tu es une femme que tu vas rester assise sur un banc avec les jambes serrées et que les hommes vont rigoler et que tu vas faire ah, ils sont drôles les hommes et tout ça. Donc voilà, il m'a vraiment poussé à.
Ah oui, mais la frontière, c'est pas papa qui vous a dit si tu veux faire rire en te foutant un poil, vas-y.
Ah, ben si. Pourquoi non? Pourquoi ce serait pas lui?
Il faut aller voir un psy.
Non, mais pourquoi un poil? Pourquoi vous dites
parce
à poil?
Parce qu'il y avait des scènes dénudées aussi.
Ah,
dans
oui,
les femmes.
Ah d'accord. Oui, d'accord, mais sur 300 sketchs, il va y avoir 2 scènes
non,
dénudées.
Non, j'entends, mais il retient que cela.
Je suis pas le seul à les avoir retenus.
Non, mon père m'a pas dit fous-toi à poil pour faire marrer, mais en tout cas, sois libre d'utiliser ton corps. Voilà. Pour créer du comédien.
C'est un médium, quoi.
Comme on peut le faire dans la danse.
Et c'est vrai qu'en effet, la nudité est toujours très comique et burlesque chez les hommes, parce qu'évidemment, l'homme n'est pas assujetti à je dois être un objet de désir, comme les femmes. Les femmes, c'est quand même un objet érotique avant tout, ou maternel, la maman et la putain.
C'est enfin, ça. Là,
c'est ou pour faire bander ou pour faire des enfants.
C'est ça.
Et tout d'un coup, c'est vrai qu'une femme qui utilise sa nudité autrement que de manière érotique, je trouvais ça très intéressant.
Et c'est aussi le cas dans la fête des mères. On ne divulguera pas ce qui se passe, voilà. Mais c'est le cas dans la fête des mères avec ce casting impressionnant. Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Cotte, Pascal Abioune, les deux sont nos invités, Jeanne Rossa.
Et Nicole Ferroni.
Nicole Ferroni, les baguettes.
Boulangère.
Femme de boulanger.
La femme du boulanger.
ça c'est un autre film. Ça. Oui. Carmen Maura, Nicole Garcia, Vincent Dedienne, Marie-Christine Barrault, Pascal de Molon, Gustave Kerven et Noémie Merlan. Merci de venir à ce micro, Brigitte Grésy. Comme l'a dit
bonjour,
tout à l'heure.
Bonjour Brigitte.
Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Daniel Morin l'a précisé, vous avez un emploi fictif. Vous êtes secrétaire général du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ah bah déjà, c'est alors là.
C'est ce qu'il a dit, je ne fais que répéter, moi tu sais, c'est mon maître. Non mais blague à part, l'égalité professionnelle, c'est quelque chose dont on parle depuis combien de temps ? J'ai l'impression qu'on en a toujours parlé et qu'on n'y arrive pas.
Oui, on en parle depuis très très longtemps. Les lois, c'est depuis 1972 et il y a eu une bonne dizaine de lois sur l'égalité professionnelle.
Donc ouais, on y arrive toujours
et
pas.
On est en train d'en configurer une autre. Oui, on n'y arrive pas précisément par tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est-à-dire que on met en place des politiques publiques structurelles qui jouent sur un certain nombre de leviers, et puis globalement, ces politiques-là, c'est comme si elles étaient dissoutes, comme s'il y avait ce dissolvant qui est lié aux stéréotypes de sexe et au fait que, eh bien, ce qu'on appelle le sexisme, c'est-à-dire que les femmes sont plutôt moins valorisées que les hommes dans le monde du travail et d'une façon générale. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un double pouvoir. Hein. Ça, c'est vraiment les analyses des psychosociologues américains, notamment Fiske et Glick, c'est-à-dire il y a le pouvoir dit structurel. C'est le pouvoir des institutions, c'est le pouvoir politique, c'est le pouvoir économique. Qui détient le capital, qui détient le pouvoir, ce sont les hommes. Mm-hmm. Ce sont les hommes et ce sont encore les hommes aujourd'hui en France. Hein.
C'est-à-dire il y avait jusqu'à peu longtemps la plus grosse fortune
oui, il y en a
française
toujours une.
Était d'une femme.
Absolument, non, mais... on a toujours un contre-exemple.
Ouais, mais c'est papa qui a gagné le pognon.
Il y a toujours un contre-exemple. Enfin, globalement,
ce sont les hommes.
Aujourd'hui, hein, les patrons du CAC 40, que l'on regarde tous les lieux de véritable pouvoir, ce sont les hommes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir structurel. Et puis, il y a, d'autre part, ce qu'on appelle le pouvoir dyadique.
Alors, pardon, je vous coupe dans votre élan et dans vos explications. Le fait que les femmes ne soient pas au pouvoir, c'est parce qu'on on les empêche ? Parce qu'elles n'osent pas ? Parce qu'elles estiment qu'elles ne sont pas à leur place à ce moment-là ? Ça vient de quoi ?
Alors,
est-ce que c'est que de la faute des hommes ou c'est aussi les femmes qui n'osent pas ?
Non, mais c'est toute une série de facteurs, puisque précisément la position des femmes dans la société, c'est à la fois effectivement le produit des stéréotypes de sexe qui fait que il y a des phénomènes d'exclusion des femmes, et puis il y a de l'auto-exclusion des femmes, de l'auto-censure, puisque les femmes anticipent un certain nombre de choses qui vont leur être jetées à la face, et finalement, eh bien, elles ne prennent pas elles ne se lancent pas, elles prennent pas leur envol pour toutes les choses, que ce soit du domaine du pouvoir, que ce soit du domaine économique, que ce soit du domaine de l'expression du corps, que ce soit dans tous les domaines, il y a une forme d'auto-limitation. Mais ce qui est intéressant,
je vous en prie,
si je peux me permettre, c'est qu'à côté de ce pouvoir dit structurel, totalement masculin, il y a le pouvoir dyadique, ce qu'on appelle le pouvoir dyadique, c'est-à-dire
que vous reprenez justement votre balance.
Le fait qu'il y a une interdépendance entre les hommes et les femmes, une interdépendance liée aux besoins sexuels et aux besoins de la reproduction. Et là, il y a une forme d'équilibre ou même, je dirais, de pouvoir des femmes peut-être plus important parce que depuis l'enfance, il y a une fabrication différente des sexes. Fabrication différente des sexes extrêmement importante qui fait que on apprend aux femmes à être légitimes dans la sphère privée. Et cette légitimation passe aussi par l'apprentissage de la séduction, passe aussi par un certain nombre d'apprentissage sur l'expression verbale. On apprend aux femmes
Des codes de société, en fait.
Des codes de société, mais on apprend beaucoup plus aux femmes les jeux de rôle, les jeux d'imitation où on fait comme maman, etc. Et où on apprend du coup des compétences verbales. Et puis aux hommes, eh bien, on apprend la légitimité dans la sphère privée. Et on leur apprend beaucoup plus à prendre des risques, à occuper l'espace. Mmh. On les met beaucoup plus en face de jeux de manipulation et de construction qui précisément leur permettent d'appréhender des compétences spatiales et mathématiques. Et que ce soit dans les interactions avec les adultes, dans les activités, dans le sport, le beau à voir, la danse d'un côté, les sports d'équipe. Or, dans les sports d'équipe, on apprend le succès et l'échec. Et la vie, c'est fait de succès et d'échecs.
Je suis un homme.
Que ce soit dans les vêtements... On apprend aux garçons, on leur met des vêtements où on est à l'aise. On donne beaucoup trop aux petites filles des vêtements avec des nœuds.
De temps en temps, je mets des robes, je suis très
à l'aise. Des nœuds qui s'attachent derrière ou des petites sandales.
Je crois qu'on est à l'aise avec une robe, non, Daniel?
Bien sûr.
Qui empêche de monter aux arbres, enfin, etc., etc. Et puis, que ce soit dans la littérature.
Moi, j'adore quand les filles montent aux arbres avec des robes.
Que ce soit dans la littérature où effectivement les personnages centraux, universels, enfin l'universalisme est masculin, que ce soit dans toutes ces choses-là, eh bien il y a une construction de la légitimité différente. C'est bien que les hommes arrivent dans la sphère publique, avec une légitimité apprise depuis l'enfance, et les filles ont une légitimité au contraire dans la sphère privée, où et c'est là un petit peu le problème, c'est que encore aujourd'hui, les femmes font 80% du temps domestique et les 2/3 du temps parental. C'est-à-dire que celles qui donnent le plus de temps aux enfants et aux parents âgés dépendants, hein, c'est-à-dire celles qui sont dans la parentèle, ce sont les femmes. Les femmes font à peu près 1h30 de plus par jour de travail dit domestique ou parental, mais ce travail est payé en amour, alors que les hommes font plus d'une heure par jour de temps professionnel et ce travail est payé en argent. Et on a donc ici une espèce de disproportion. Alors c'est normal d'une certaine façon que la mère, et ce que j'ai adoré ce film, hein, je tiens
à dire. Vous avez le droit de le dire, oui.
Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une diversité de profils. Il y a des mères qui sont des mères bienveillantes, il y a des mères plus maltraitantes, il y a tous les profils. Et c'est ça la vie, c'est la diversité des profils. Mais c'est vrai que du coup, dans cette sphère privée, le temps dévolu aux enfants est beaucoup plus important du côté des femmes. Et c'est normal donc que les figures d'attachement, parce que, c'est l'attachement, c'est les gens qui passent du temps avec vous. Et donc les deux qualités fortes d'une bonne éducation, enfin d'une éducation à peu près bonne, c'est quand même la bienveillance, donner confiance et donner un cadre, eh bien, c'est plutôt les mères, d'autant que les pères étant très absents de la vie familiale depuis maintenant fort longtemps, ils ont perdu en plus cette auréole de pater familias qui faisait que quand ils arrivaient, je suis le père de famille, et les femmes ont été obligées aussi de prendre le rôle de la loi et de l'amour.
Il y a une réplique dans le film, d'ailleurs, je ne sais plus quel personnage dit, mais on ne risque pas d'arrêter l'élan, la virilité, de nuire à la virilité des hommes en étant...
au début, quand petite cour, elle dit, moi, ça me fait pas du tout rêver un gars qui change des couches et tout ça, on les castre.
On va les émasculer.
Ouais. Ben oui, là, on est complètement dans les stéréotypes de sexe. Hein. Il y a des sociétés, par exemple, dans le sud-ouest de la Chine, les sociétés Mossu, etc., où, alors, ça n'est pas des sociétés matriarcales. Françoise Hériti dit qu'il n'y a pas de société matriarcale.
On ne dit pas des trucs intelligents.
C'est des sociétés où la mère a l'autorité, mais il y a des sociétés matrilinéaires, c'est-à-dire la filiation se fait par les mères. Mais même dans ces sociétés matrilinéaires, eh bien, c'est le frère de la mère qui a le pouvoir. C'est-à-dire, c'est l'oncle maternel qui a le pouvoir et qui éduque les enfants. Or là, c'est les hommes qui éduquent les enfants. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Et c'est les femmes qui tissent et qui font le travail. Donc, moi, je crois que...
Donc, même lorsqu'une femme est présidente de la République, comme c'est le cas dans le film, on n'est pas dans une République matriarcale.
Non, pas du tout.
Les hommes auront toujours le pouvoir, soit de l'argent,
mais
soit de
pouvoir structurel. Bien sûr, le pouvoir structurel leur appartient. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même des évolutions fortes. Ça se voit dans les chiffres d'ailleurs, hein. Il y a de plus en plus de femmes cadres, même s'il y a une paupérisation accrue du travail féminin par ailleurs.
Bah, nous, on a une présidente ici à Radio France, il y a une présidente à France Télévisions.
Absolument, il y a quand même des évolutions. Oui. Mais quand on gratte derrière, après, si on regarde.
Je ne me permettrai jamais de leur gratter derrière.
Lorsqu'on gratte derrière, adverbe, eh bien, on se rend compte que finalement, la réalité du pouvoir. Elle est quand même toujours du côté des hommes.
Regardez, il y a Laurence Bloch, si on
regardez les tableaux, les plateaux sur les expertises, c'est quand même majoritairement des hommes. Or, qu'est-ce que c'est que la parole d'expertise ?
Parce qu'on veut quelque chose de sérieux, voilà.
C'est la parole d'autorité, c'est ceux qui disent le monde, c'est ceux qui ont la vision surplombante, la vision de l'humour. Or, ce sont toujours des hommes. Quand les femmes interviennent, elles sont plus souvent coupées,
interrompues, absolument.
On les appelle par leur prénom.
Merci Jérémy.
On les appelle par leur prénom comme les femmes politiques. On va appeler Ségolène. Voilà. On va pas dire François.
Enfin, voilà. Il y a des évolutions fortes. L'autorité paternelle n'existe plus depuis 70. C'est l'autorité parentale conjointe.
Ce que j'aime, c'est que chaque fois que j'essaie d'en placer une, elle pose la main comme ça.
Ça te fait pas de mal, hein.
Ah non, mais j'ai...
Vous avez l'habitude, c'est ça.
J'ai une grande expérience de la coupure de parole.
Exactement.
Manspreading.
Faut quand même préver... Madame vous a giflé, Nagui, avant de...
Oui, mais c'était à ma demande. Non, oui,
mais quand même.
Parce
quand
qu'elle
même.
Était très cuite, hein, j'avais envie. Merci, Madame Grézy, que vous pouvez appeler Brigitte dans l'intimité, d'être venue à ce micro. Bonne journée. Tanguy Pastureau, soyez le bienvenu.
Bonjour, merci.
La Chine a lancé avec succès le casque à capteurs pour les salariés. C'est quoi ce truc?
Oui, le principe en est aussi basique que la grille des programmes de NT1. Vous mettez un casque au travailleur et s'il ressent une émotion particulière, stress, colère, dégoût, hein, s'il regarde une photo de l'architecture à la Grande Motte, eh bien le casque le balance au chef et il est remplacé par quelqu'un de stable émotionnellement. Ariel Dombal en Chine, elle bosse 7 minutes.
C'est à suivre dans la dernière partie de cette émission. Pascal Arbillot et Olivia Cotte sont nos invités pour parler de la fête des mères. C'est la bande originale, soyez les bienvenus, Laïla Kadouboudagi est là, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau, Daniel Morin,
ah, bravo Daniel,
Albert Aljou, et nos invités, Olivia Cotte et Pascal Arbillot. Avec ce film qui s'appelle La fête des mères, que l'on a aimé, un film réalisé par Marie Castille, Mention Char, qui en a écrit le scénario et assuré la réalisation, voire les 34 montages ou versions de montage avant que vous puissiez voir le film qui sort ce mercredi 23 mai, avec un casting impressionnant. Et d'ailleurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, évidemment, dans le film. Quelques hommes, ça s'est ressenti sur le tournage, que ce soit, on parlait tout à l'heure de société matriarcale. Est-ce que là, on était sur un tournage matriarcal?
Alors, pour le coup, c'est vrai que beaucoup de chefs de poste étaient des femmes.
Mais bon, et c'est une femme qui décide. Et c'est
la, oui, parce c'était que un tournage maternel, en fait. On était maternés, entourés. Ah, j'ai pas ressenti. Ah, je trouvais que Marie Cassie était vraiment
protectrice.
Maternelle, enfin.
Ben, entourante, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu sais, on se prenait les mains à la fin de
c'est
scène.
C'est quand même sympa, quoi, parce que moi, je suis pas, j'ai pas,
oui, c'est
j'ai
vrai,
pas d'enfant,
raison.
Mais je suis pas maternelle, mais je suis vraiment
c'est vrai,
très sympa.
C'est vrai, t'as raison.
De complète. Il y a la phrase dingue. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas d'enfant, mais je suis sympa quand même.
Non, mais
parce
au
que
sens,
ça voudrait dire toujours quelqu'un
bah,
qui
si
pense
on était
toi.
Un peu, moi, je trouve qu'on était un peu, si, je trouve qu'on était un peu tous ses enfants.
C'est la première fois que vous tourniez.
Au début, c'était les membres de son équipe. Enfin, c'était une équipe.
Ouais, je trouve qu'elle était très câline, très.
Quand elle vous a.
Mais c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on n'est pas câlin, j'ai compris. Mais c'est
quand
plus
elle... Quand elle vous a rencontré pour parler du film, comment elle vous l'a présenté, Olivia Cotte? Simplement en disant, voilà, aucun film n'a été fait autour de la fête des mères, j'ai une idée.
Pas vraiment comme ça. J'aimerais faire un film où on voit, on suit plein de personnages. Qui essaie de se débattre dans cette relation compliquée d'enfant de sa mère, parce qu'elle vraiment se concentre en effet sur la relation qu'on a avec sa mère. Donc elle avait envie de faire un film là-dessus, de décortiquer. Donc au début, la première fois il y a 4 ans, il y avait 59 personnages. Non, j'exagère, mais il y avait encore plus de personnages.
C'était il y a 4 ans la première fois qu'elle vous en a parlé.
Oui.
C'est fou.
Oui.
Elle devait pas le tourner avant, Le ciel attendra.
Si, tout à fait. Voilà. C'est et tout d'un coup, il y a eu l'urgence, l'urgence de réaliser, d'écrire ce film, Le ciel attendra.
La triste
urgence d'écrire Le ciel attendra. Et après, elle a pas du tout lâché le projet de la fête des mères.
De celle qui rejoigne Daesh, puisque tout est autour de la fuite comme ça de certaines adolescentes, soit dans l'engagement, soit pour une histoire d'amour embrigadée sur Internet. Et le film était vraiment une réussite, tout comme la fête des mères. En fait, j'ai le sentiment, après avoir vu ce film, qu'on est tous des enfants. On est juste des enfants légèrement plus vieux. Quoi.
Exactement. Ah ouais, moi je crois profondément à ça. Et on se raconte parfois, j'ai toujours trouvé ça comique, les gens qui se prennent tout d'un coup au sérieux parce qu'ils ont un travail, le côté carte de visite, je reviens vers vous.
C'est une phrase merveilleuse. Ça.
Mais je reviens vers vous demain. Et je trouve ça incroyable parce qu'on sait tous que c'est un jeu social et en même temps on le joue.
Dans ce film, il y a 12 femmes et 3 hommes. Vous trouvez normal que les 3 hommes soient plus payés que les 12 femmes?
Je pense que c'est un film très égalitaire. Il y a un truc qu'a fait Marie Castille, j'ai dû faire un transfert parce que j'ai dit que c'était maternel, mais j'ai dû faire totalement un transfert parce que, tu vois, Marie Castille, mais elle a fait un truc incroyable. C'est que c'est assez rare. Beaucoup dans ce métier, enfin, sur les tournages, il y a beaucoup de stagiaires qui sont pas très bien rémunérés. Ouais. Et elle a fait chaque semaine ou chaque mois, je sais pas, semaine, parce que ça dure tellement peu de temps. Non, chaque semaine, une cagnotte, on mettait tous 5 euros, et c'était tiré au sort, et un des stagiaires l'avait.
Un loto stagiaire.
À loto stagiaire.
Non.
Et je trouvais ça génial.
Et à chaque fois, c'était sa fille qui gagnait. C'est quand même bien foutu. Hein.
Et ça, c'est vraiment génial.
Ah ouais, c'est
génial.
Formidable.
La Fête des Mères, un film réussi où il y a l'amour que l'on peut avoir, l'amour d'une maman, la question de se poser de savoir est-ce que oui ou non je veux un enfant. Il y a même pas une question d'avoir de savoir si on est prête. Mais il y a aussi la question de savoir comment organiser son travail. Alors même si ça devient c'est vu du prisme de la présidente de la République, où évidemment tout prend une dimension totalement différente, c'est-à-dire
c'est intéressant d'imaginer
faut aller changer les couches pendant le Conseil des ministres.
Mais c'est intéressant d'imaginer une femme présidente de la République déjà, ensuite d'imaginer que pendant son mandat elle tombe enceinte, elle accouche, et que toute forme de fragilité dans une prise de décision va être mise sur le compte de son instabilité hormonale. Enfin voilà, ouais, je trouve que c'est assez intéressant.
Vous vous souvenez de la série Borgen?
Oui, Borgen.
C'est extraordinaire parce que tout d'un coup on rentre dans une intimité qui est une réalité, et la fragilité des femmes liée à leurs hormones, on le connaît, mais c'est une réalité, voilà.
La peur d'être papa existe aussi, c'est le cas de Vincent de Dienne pour son premier film ever dans La Fête des Mères. Tu l'as trouvé bien, Daniel?
Formidable. Ouais. Ah ouais. Carrément, je m'y attendais pas parce que je connais un peu le personnage, il est vraiment déplorable. Salut. Et là, la claque.
Il fait un beau duo avec Nicole Garcia.
Ah, j'adore. C'est un duo
très beau rôle. Avec Noémie Merlan d'un côté, sa douce dans le film, et avec sa maman, Nicole Garcia de l'autre, qui joue le rôle d'une comédienne avec aussi des problèmes ou pas de mémoire, le problème du regard des autres ou pas.
Complètement étouffée par son fils.
Totalement.
Comme quoi, c'est pas forcément les mères qui étouffent, mais là, c'est plutôt le fils qui étouffe.
Et c'est elle qui rêve de faire des claquettes parce qu'elle ne les a jamais faites et qu'à un moment donné, il faut profiter du peu de temps qui nous reste pour aller au bout de ses rêves. Marie Cassis, mention char, signe ce très beau film, La Fête des Mères, qui est un film à la fois émouvant, drôle, très drôle, et puis à la fois, j'ai quand même envie de dire, psychanalytique, parce qu'on ne peut pas sortir de ce film sans qu'il ne résonne avec toutes les orthographes. D'ailleurs, possible sans qu'il ne résonne.
Bravo, c'est
chouette ça.
Oh, ça va.
Mais c'est super, Nagui.
C'est un gros compliment.
Oh là là.
Je crois pas en moi. Tanguy, on se connaît tous tellement mal finalement. Et vous voulez en parler?
Oui, c'est vrai, Nagui. Ainsi, derrière votre apparente sympathie et vos yeux pétillants de malice, tels ceux de Laurent Wauquiez quand dans la boutique Guy Cotten, il craque sur une nouvelle parka de pêcheurs qui pue la dorade. Vous êtes peut-être un être vil qui rêve de rouler en Hummer sur une grille de chauvin afin d'éliminer toute concurrence à votre jeu télé. Leïla, contrainte socialement de surjouer la carte de l'intellect parce qu'elle est sur France Inter, se dit peut-être à l'instant, purée, j'ai une de ses envies de m'écouter un bon Émile et Images. Oui. Allez, rien à taper, je postule à Chant de France. Oui. Il est impossible de savoir réellement, derrière nos sourires convenus et nos t-shirts Juliette Armanet, t-shirt Michel Sardou, pour moi qui cherche le licenciement abusif de la radio publique afin de prendre une blinde au prud'homme, ce qui nous anime. Quelles sont nos émotions? Ainsi, Jérémy Crédville, qu'on voit faire le con chez Arthur en slip licorne. C'est comme le slip kangourou, mais avec une corne. Si bien que si on oublie de l'enlever avant le coït, on perfore la personne dans le sens de la longueur et qu'elle râle, puisque les gens sont jamais contents. Jérémy est peut-être un romantique absolu qui n'a pas eu la chance de n'être sous Musset, mais sous Musso, et qui doit faire triper la ménagère s'il veut remplir ses salles. On ne sait rien des émotions intérieures des autres, sauf en Chine, ce pays surpeuplé qui nous a donné le menu B3 et la version hardcore du macronisme qui consiste à bosser tout le temps et gratos. En effet, la Chine a inventé un casque qui ressemble à celui en cheveux que porte Christian Estrosi quand chez Camille Alban il s'est fait gonfler chaque bulbe à la brosse soufflante, et qui détecte les pics émotionnels chez les salariés. C'est-à-dire qu'on le met sur soi, on fabrique des sweatshirts ou des jouets pour chiens qui font pouet-pouette, donc on ne ressent rien, sauf si on est soi-même un chien. Auquel cas, on remue la queue et on bave au premier pouet-pouette. Tel Philippe Manœuvre quand sa femme met Satisfaction des Stones sur la platine, mais avec plus de poils et moins de cuir. Dans ce cas, le travailleur ne ressent rien, sinon de l'ennui, ce qui est la norme de 99% des jobs, sauf dans celui de Christophe Castaner, parce qu'il consiste juste à dire que Macron c'est Jéhovah avec l'air exalté du tuffeur sous exta. Mais si le salarié par exemple ressent du stress, eh bien le casque le signale au chef qui se dit oula Kevin, j'imagine que les Chinois aussi s'appellent Kevin comme en Californie ou dans le Pas-de-Calais, oula Kevin se sent mal, je le sens aussi stressé que Christopher Froome quand il n'a eu ni sa piqûre de 16h02 ni celle de 17h27, encore moins celle de 18h40, je vais le mettre à un poste moins critique, un truc qui sert à rien comme premier secrétaire d'Europe Écologie. l'écologie, les verts.
Mm-hmm. Bon, est-ce que ce casque qui est muni de capteurs repère toutes les émotions?
Oui, par exemple, la colère. Hein. Si un salarié chinois se met en rogne, comme le responsable du pressing de Bernard-Henri Lévy, quand l'autre revient de 14 jours dans le sable à Alep et qui lui dit « Coco, voilà mes chemises, je les veux bien blanches pour demain », eh ben le casque le dénonce. Et il détecte aussi la dépression. Vous mettez ces casques à tout le zénith de Paris pendant le concert d'Eddie De Pretto, les 5000 sonnent en même temps et les Chinois débarquent pour dire à De Pretto « Bébé, t'es gentil, mais tu nous plombes, dégage, on fait rentrer Mika ». Alors, une société de transport de Shanghai a même équipé ses conducteurs de train de casquettes à capteurs. Hein, comme ça, si l'un d'eux est moins concentré, hein, parce qu'il rêve qu'il est français, qu'il discute à la cool avec ses potes dans le local Sudrail en mâchonnant des merguez, et ben la casquette bip et le conducteur est remplacé par quelqu'un de plus efficace. Parce que le truc, c'est ça, c'est de localiser les mauvais travailleurs. Hein, toute personne bossant moins de 24h30 par jour ou venant de regarder sur YouTube une vidéo de Martine Aubry vantant le partage du travail, on la vire pour mettre à la place quelqu'un de plus fort, plus docile, avec moins d'émotions. Hein, Christine Angot en Chine, dès son premier passage télé, la chaîne lui aurait dit « Tu sors de la loge, on t'enfume comme on le fait avec les taupes et tu nous fais la plus belle interview de Francis Huster jamais réalisée. Je veux qu'il cite Sacha Guitry 7000 fois. Sinon, on te remplace par Laurent Veil qui, en 35 ans d'interview de star, n'a pas haussé la voix une seule fois. » Alors derrière ce casque à capteur, eh bien, il y a le pouvoir chinois hein, qui finance son développement dans le but de créer une armée de petites mains qui ne ressentent plus rien, avec le même regard vide que celui de Manon des Marseillais de W9 si on venait de lui révéler l'existence de la chaîne Histoire. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ça a déjà permis de réaliser plusieurs millions de dollars de profit. Ce sont les derniers communistes qu'on a dans le monde, mais ils ne pensent qu'au blé. Alors ils auraient pu prendre des robots, hein, mais ça coûtait trop cher. Et avec l'intelligence artificielle, les robots commencent à ressentir des trucs. Hein, dans 20 ans, votre presse agrume connectée vous dira « Non, je me sens pas bien, j'en veux pas de ton orange, laisse-moi, j'ai la migraine. » Et on se retrouvera à décapsuler une pelle forte à 7h du matin. La technologie va faire de nous tous des Belges. Hein. Alors que l'humain lobotomisé, pressurisé, contrôlé H24 par sa casquette. Vous imaginez si celle de Booba faisait ça. À chaque fois qu'il virait une billatche, ça biperait. Hein. L'être humain, lui, eh bien, est corvéable à merci. Nous, ici, bah, on ne sait pas qui est stressé, qui est énervé, qui est fatigué, qui est un psychopathe, Daniel Morin. Et c'est très bien comme ça.
Voilà. Merci Tanguy Passureau.
Merci.
La bande originale, la vie sur France Inter.
Attention, une information s'est glissée dans la fin de ce papier. Pascal Arby, Olivia Cotte, vous avez donc tourné dans ce film La Fête des Mères. On parle d'un film choral avec tous ces destins croisés. C'est particulier de jouer dans un film où il y a, non pas, il n'y a pas du tout de premier rôle, mais où il y en a 12.
C'est très agréable, c'est comme si on faisait chacun un moyen métrage et surtout il y a toute une partie du film qu'on ne connaît pas, donc on découvre vraiment un film et c'est très 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 agréable de découvrir des histoires.
Enfin, sauf que vous avez lu le scénar.
Oui, mais le scénar n'était pas complètement. Il a évolué. Oui, j'avais lu, mais après entre ce qu'on lit et puisque.
Ouais. Et puis s'y retrouver. Nous, à le raconter, c'est assez difficile, assez particulier de résumer ça. C'est pas on peut pas le pitcher en une ou deux phrases, mais de le lire, on doit être encore plus perdu en se.
C'était un peu compliqué.
Qui redit ça?
C'était un peu compliqué. En même temps, Marie-Cassie nous a fait. On a fait plusieurs lectures. On a retravaillé avec elle et elle est tellement passionnée et tellement en plus prête à changer des choses.
Elle est à l'écoute de ce que vous proposez.
Ah oui, puis elle est tellement investie, tellement joyeuse et tellement. Enfin là, en plus ce sujet, je pense, lui tenait particulièrement à cœur. Donc il y avait quelque chose de très simple, de très concret. Et puis parfois, on croisait tout d'un coup, parce qu'il y avait dans chaque personnage croise à un moment donné un autre personnage avec qui il n'a pas d'histoire.
Et pourtant, il y a des comédiens ou des comédiennes avec qui vous n'avez absolument pas tourné, qui sont dans le même film, Olivia Cotte.
Tout à fait.
Moi, j'ai croisé Nicole Garcia et je n'ai aucune scène avec elle. Oui, on est juste passé dans la rue à côté d'elle.
Et vous parlez en faisant vos courses, pas pour le film, c'était juste dans la vie, quoi.
Dans la vie tous les jours.
Vous devez aimer ça, parce que on retrouve l'esprit dont parlait Leïla tout à l'heure, de troupe, de cabaret.
C'est ce que j'allais dire, c'est que pourtant, parce que souvent on nous dit, vous devriez faire des one-man shows, enfin souvent les acteurs on nous demande ça, mais je sais que personnellement je trouve ça tellement joyeux la troupe, alors c'était une troupe éclatée, on n'était pas tout le temps ensemble, mais j'avais vraiment la sensation de faire partie d'un groupe, quoi, d'un groupe qui racontait.
Moi, j'ai juste une question sur les trois frangines blanches et la copine des trois frangines.
C'est... Oui, c'est la meilleure amie de mon personnage, Nathalie. Qui,
non, mais voilà, mais elle est très présente au milieu des trois sœurs, quand même. Même si elles sont à table en train de parler de l'éventualité de la mort de leur maman, elle est là. Même si elles sont en train de picoler une bonne bouteille de Bordeaux tout ensemble, elle est là.
Bah, peut-être qu'elle est enfant unique, cette blanche. Moi, je sais que j'ai vécu ça avec Judith Siboni et ses deux sœurs, Pauline et Marion. J'étais vraiment collée, quoi. Et je passais. Il y avait vraiment beaucoup de soirées où il y avait les trois sœurs et moi qui les collais.
Vous recréez les frangines que vous n'avez pas.
Bah, complètement. C'est ça. Oui, en étant enfant unique, c'est sûr que
tu
es sans
fratrie. Du coup,
et peut-être que oui, comme Blanche a décidé de ne pas se réconcilier avec sa mère, par défaut d'orgueil et tout, et peut-être que justement ces trois sœurs sentent qu'elle est un peu désœuvrée, isolée, donc elle...
Alors il y a quelques destins croisés, je pense à Noémie Merlan qui est la nièce de Pascal de Boulon, elle travaille, son fleuriste, enfin il y a par moments comme ça il peut y avoir des liens qui sont familiaux, mais sinon sont vraiment des personnes qui vivent en société, qui se croisent.
À Paris, qui se croisent.
Des Sims.
C'est très... c'est ça les fameux. C'est très... on est peut-être embrouillé, pardon, dans nos explications, mais en tout cas c'est extrêmement fluide et agréable à voir. Laissez-vous porter par la fête des mères, allez le voir. C'est ce mercredi au cinéma.
Vas-y, cherche.
Non, t'as pas entendu, je viens de le faire.
Il a soupiré.
Ah, d'accord.
C'est lundi.
Non, c'est Daniel Morin.
Mais quelle ordure. Aujourd'hui, lundi 21 mai, lundi de Pentecôte, c'est jour de décembre de l'Esprit Saint. Comme l'Esprit Saint n'a visiblement affecté personne autour de cette table de païens aussi dégueulasse que mécréants, je ne parlerai donc pas de religion. Aujourd'hui, 21 mai, je ne parlerai pas non plus du Festival de Cannes qui a rendu son verdict ce week-end.
Ouais, c'était impressionnant.
Palmarès honteux. Surtout la Palme d'Or.
Surprenant.
Mais je suis pas là pour commenter ce genre de célébration bobo, toxico, maladivo, sexuelo-transmissible. Non, je ne commenterai pas ce palmarès, surtout qu'on n'est pas en direct et qu'en réalité, il reste une semaine de compétition. Non,
je vais plutôt... Mais Edouard Baird a été formidable hier soir.
Il était bon. Ouais. C'est vrai qu'il était bon. Je vais plutôt vous parler cocktail. Attention. Pas cocktail alcoolisé. Non, si ça avait été le cas, j'aurais demandé au spécialiste maison de le faire. Celui qui s'y connaît en alcool et autres produits festifs, 9 fois médaille d'or, la fête de la bière à Munich, recordman du monde à Cancun, de l'ingurgitation de tequila en 5 minutes chrono, 13 litres 250 centilitres. Non, n'insistez pas, je ne vous donnerai pas son nom. Non, là-dessus, je suis intraitable, j'ai une morale, j'ai des principes de loyauté. C'est pas mon genre de balancer. En plus, la personne concernée n'est même pas à Paris, il n'y a aucune raison que je mette dans l'embarras la famille Trapenard. Non. Le cocktail dont je voulais vous parler, c'est celui de la religion mixée au marketing. En novembre dernier, le constructeur d'automobiles sportifs de grand luxe Lamborghini a offert un de ses modèles au pape. Bon, on peut pas dire que la Lamborghini soit la bagnole idéale pour le pape. Hein. Pour rentrer dans une Lamborghini, je vous rappelle qu'il faut s'allonger au sol, rouler sur le côté jusqu'à son siège. C'est déjà pas cool, surtout à 81 ans. En plus, quand tu t'habilles toujours en blanc, c'est une tannée, tu dois te changer 100 fois par jour. Le côté pratique de la Lamborghini, c'est que ça monte à 320. Mais bon, bénir la foule à 320, quand t'as la tête qui sort du toit, c'est pas idéal non plus. À cette vitesse-là, quand t'ouvres la bouche, tu manges au moins 3 kilos d'insectes. Et puis, pour garder ta calotte en place, c'est l'apocalypse. Il faut prévoir au moins des agrafes dans le crâne, des agrafes, voire un clou. Non, du coup, le pape a décidé de la revendre, sa Lamborghini. Alors une Lamborghini, ce modèle, la Huracan, ça cote à 350 000 euros.
Huracan, tu dis ?
Huracan. Ouais. Sauf que là, le pape y a une idée marketing de génie. Il a béni la caisse.
Yeah. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, te benedito, bagnola vroom vroom, amen.
Et la machine Cato promo était lancée. Tu as toujours envie d'une bagnole de kéké, mais tu es un fervent catholique qui a fait vœu de pauvreté. Tu veux montrer au monde qui c'est qui a la plus grosse, mais ta foi t'oblige à rester humble. Tu veux avoir la vie d'un agui, mais tu ne veux pas passer comme lui pour le diable. Alors offre-toi la Lamborghini Huracan, celle du pape. Un bolide de rêve aux couleurs vaticanes, blanche avec liseré doré. 0 à 100, 3 secondes 20, vitesse de pointe 320, 325 km/h. Et tout ça dans une caisse protégée par la bénédiction papale. Les voies du ciel sur le goudron de la terre, c'est pour toi. C'est pour toi et pour la somme de 750 000 euros. Ah, c'est plus cher que la Papa Mobile, mais avec la Papa Mobile, tu ramasses que dalle. Même les bonnes sœurs refusent de monter dedans. Alors que dans Lamborghini Huracan, tu vas choper grave. Tu vas choper, c'est vrai, c'est mal, mais avec la bénédiction du pape, autant te dire que Dieu ne t'en voudra pas. Allez, vas-y, lâche-les les 750 000 boules. Pour ce qui est des sensations, ne sois pas inquiet. Même béni par le pape, une Lamborghini reste une Lamborghini. Je te rappelle que chez Lamborghini, ils font aussi le modèle Diablo.
En même temps, je suis pas sûr que ce soit l'affaire du siècle, cette bagnole. En tout cas, c'est le moyen le plus sûr de conserver une âme pure dans une bagnole de macro. À demain.
La bande originale avec Nagui.
C'était Daniel Morin avec le pape Albert. Pascal Arbillot, le 29 août prochain, vous serez à l'affiche de Guy, le film de et avec Alex Lutz. Oui. Vous êtes qui dans le film ?
C'est la femme de Guy.
La femme de Guy. Madame Guy. Ensuite, vous serez dans Pauvre Georges, vous faites que les prénoms. Hein.
Ouais, c'est vrai.
De Claire Devers avec Grégory Gadebois et Monia Chokri. Et ensuite, vous êtes déjà fait, d'accord. Ouais. Et la suite de Des Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Oui. Il y a un titre enfin à cette suite.
Je ne sais plus.
Si vous avez pas le droit de le dire, c'est ça.
Mais je ne sais plus ce qu'il faut dire, donc je dis que je ne sais plus.
Alors moi,
je ne sais plus.
Je vais le dire moi alors.
Bah voilà, comme ça, moi j'ai rien dit moi.
Nous finirons ensemble.
Je crois.
D'accord.
Mais je ne sais plus.
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch et Pascal.
Peut-être. Je ne sais plus.
Et Pascal Arbillot, donc dans ce film de Guillaume et avec Guillaume Canet. Et
Jean Dujardin, il y sera.
Je ne sais pas. Je ne sais plus.
J'ai 20 ans.
Il y a plein de trucs où
il réalise
Djouba. D'accord. Ou je ne sais pas, ça veut dire que peut-être il y a un caméo, il y a une surprise qui va se passer. Olivia Cotte, vous êtes actuellement donc à l'affiche de Larguer tout à l'heure.
Oui.
On en a d'Héloïse Lang. Grand bien d'Héloïse Lang avec Miu Miu, Camille Cotin et Camille Chamou. Le 14 novembre, vous l'avez dit, le Chant des Fleurs.
Alors, ça s'appelle Pupille maintenant.
Ah, ça a changé.
C'est vrai?
Oui. D'accord. De Jeanne Herry, qui avait formidablement réussi, elle l'adore,
premier long, ouais.
Son premier long, avec déjà Sandrine Kiberlin à l'époque qui revient. Gilles Lelouch sera dans ce film également. Et vous y faites quoi ou qui?
Une assistante sociale, enfin, c'est tout un groupe d'assistantes sociales qui s'occupe d'un bébé.
Très bien. On retrouve encore les histoires de bébés de naissance. Allez voir la fête des mères que vous aimiez ou pas. Déjà, vous apprenez une chose, c'est que c'est pas du tout pétainiste comme fête, que c'est né en 1904 aux États-Unis et que ça a été fêté la première fois en 1917, encore une fois aux États-Unis, avant que celle même qui voulait rendre hommage aux mamans ne dénonce le côté mercantile de la fête des mères en voulant tout faire pour qu'elle soit supprimée. Et ça lui donne un goût différent à cette fête des mères, en tout cas, je trouve, grâce à ces informations réunies dans le film. Et on voit bien, d'ailleurs, la toile aussi de Whistler qui est au musée d'Orsay. Ça donne envie d'aller refaire, non pas des claquettes au musée d'Orsay, mais un tour pour y voir cette toile. Non, mais qui est impressionnante de par sa taille, déjà, parce que je pensais qu'elle était plus petite.
Ah oui.
La Joconde, c'est le premier sentiment qu'on a, c'est qu'elle n'est pas grande.
Oui.
Mais là, la toile de Whistler, elle est immense. Elle est impressionnante.
Grande.
Pardon.
Immense tout d'un coup, t'as pas envie d'avoir une scène de.
Ouais,
il y a un problème avec les proportions, Nagui. Ouais. En général.
Bah oui, c'est ça. Mais la fête des mères, c'est ce mercredi dans Deux Dodos que vous pourrez voir le film.
J'ai compris.
Des excuses à présenter, Daniel.
Oh oui, désolé pour nos auditeurs nostalgiques de la France éternelle qui auraient tant aimé qu'Olivia Cotte incarne le maréchal Pétain à l'écran. Alors, c'est pas le cas dans ce film, mais on parle d'un projet féministe où Olivia Cotte serait dans le rôle d'Harvey Weinstein. Désolé pour Marie-Christine Barrault dont les capacités intellectuelles et physiques ont été remises en cause par Leïla Kaddour-Boudadi. Elle est comme ça, hein, Madame Culture. Elle ne respecte rien. Désolé pour Pascal Arbillot et Olivia Cotte qui ont appris ce matin que le moment que Nagui avait préféré dans le film était le générique de fin. Ah, le Nagui, il aime ça, le 7e art. Hein. Il aurait bien mérité d'aller à Cannes à la place de cet usurpateur de trapenard.
C'est vrai qu'il est beau, le générique de fin. C'est vrai, c'est une belle idée. Merci Pascal Arbillot, merci Olivia Cotte.
Merci
à très bientôt.
Merci.
Demain, c'est Zabou et nous parlerons des Molières avec elle et en live, iPhone. Passez une bonne journée à suivre les carnets de campagne de Philippe Berthaud. Mais ouais, c'est dément, mais c'est dommage. Allez, bonne journée.